Donc, on produit un signal visuel et en retour, on a, en rétroaction, on a une traduction sonore qui est produite. On a un mouvement qui passe devant une source, une cellule photoélectrique et il y a un déclenchement qui s'opère, etc. Donc, cette idée de système autonome autorégulé, de spectacle machine, en quelque sorte, c'est ça que je voudrais essayer de dire, hein, on fait véritablement des dispositifs célibataires, hein, des dispositifs audiovisuels qui, en quelque sorte, s'autonomisent complètement de toute la tradition, à la fois de la composition musicale, de la composition tout court, qu'elle soit chorégraphique ou théâtrale. D'ailleurs, il n'y a aucune... le sous-titre de cet événement, c'est bien « Theater and Engineering », mais il n'y a aucune personnalité de théâtre impliquée dans ce projet. Voilà, donc la première chose que je voulais essayer de vous proposer, donc c'est cette idée qu'on est en quelque sorte dans une sorte de prolongement spectaculaire, c'est-à-dire dans une espèce de représentation analogique, hein, de logiques qui sont à la fois des logiques théoriques propres à la cybernétique, d'une ère générale à la théorie systémique et à la théorie de l'information, et puis d'autre part, le deuxième point que je voulais vous soumettre, donc, c'est essayer de comprendre pourquoi, faire quelle particularité, quelle raison finalement, pour quelle raison les acteurs principaux de ces performances sont finalement quand même des chorégraphes, hein, des gens qui sont issus d'une réflexion sur la danse, hein, pour une grande part, hein, et qu'est-ce que ça, comment ça peut être compris finalement dans la logique de ce projet. Alors je termine par ça. Alors, on peut dire que le matériau de base des Nine Evenings, c'est le corps. Hein. Cette insistance seule sur le corps suffit en quelque sorte à parler de théâtre. Si on parle de théâtre dans l'intitulé de ces 10 soirées, c'est parce qu'il y a question essentiellement d'un acteur, hein, d'un performeur, donc de la présence d'un corps. À chaque fois, il est question, il y a quelque chose comme un corps qui se transforme et qui s'objective, et qui devient, qui se machinise en quelque sorte, mais un corps tout de même. C'est une caractéristique de base des happenings en général. Hein. Le fait que les performeurs deviennent des choses, et que les choses deviennent des performeurs, cette espèce de mélange entre personnes et choses, est une caractéristique soulignée par un des critiques les plus importants pour le happening, qui est Michael Kirby, dès l'origine, dès l'apparition des happenings. C'est aussi quelque chose qui est évidemment en jeu depuis, je dirais, les projets du Boros, par exemple, de Oscar Schlemmer, de mécanisation, de déshumanisation des acteurs qui deviennent des marionnettes à travers ces espèces de costumes métalliques que vous connaissez sans doute dans les pièces de Schlemmer. Je disais que Anna Halprin, dès 1959, est une de celles qui a le plus insisté sur cette manière de penser la relation du corps humain et de l'environnement via la médiation des choses, via cette matérialisation des mouvements que permet la relation aux objets. Ce principe pourrait être repris donc de façon très large et très multiple par la Johnson. Donc on a deux éléments. On a le corps et l'environnement, hein, avec toutes sortes d'interfaces qui permettent la relation entre les deux, hein, des capteurs, des médiateurs, toutes sortes de processus qui permettent d'élargir cette relation entre le corps et l'environnement, ce qu'on peut l'appeler aussi des interactions, hein, qui sont au fondement de la nouvelle technologie informatique. Hein. Ça, c'est un premier élément qu'on peut considérer dont l'origine, en quelque sorte, constitue le cœur, encore une fois, du projet de cette danse. Hein. Penser le corps et le rapport du corps à l'environnement via la médiation d'un objet, c'est finalement une première étape pour penser la médiation entre le corps et l'environnement que permettent d'autres types d'interfaces, d'autres types de capteurs, d'autres types de médiateurs que sont l'ensemble de ces technologies, de ces inventions qui permettent une interaction, un prolongement, une amplification de cette interaction entre corps et environnement. C'est une sorte de manière de produire des prothèses, en quelque sorte, du corps. Hein, et de ce point de vue-là, évidemment, la pièce de Alex Hay est assez caractéristique. Ces électrodes posées sur le cerveau, c'est une sorte de prothèse, en quelque sorte, qui permet de révéler à l'extérieur des éléments qui sont intérieurs, internes au corps, comme c'est donc ces ondes, ces fréquences électriques qui sont une caractéristique propre de l'organisme. Ce qui est exploré et approfondi dans les Nine Evenings, c'est ce rapport corps-environnement posé par la danse minimalisme en parlant des corps-machines, du corps-prothèse, des extensions par la technologie, des formes d'interaction propres au corps. Le corps est cette machine, déjà, qui a pour caractéristique de produire toutes sortes d'interactions sensibles avec l'environnement extérieur. Mais c'est précisément ces interactions sensibles qui sont en quelque sorte démultipliées, hein, qui sont en quelque sorte amplifiées par la technologie, les technologies, et notamment les systèmes de commande à distance inhérentes aux, disons, inventions technologiques impliquées dans les minimalismes. La base est celle du minimalisme et son prolongement, celui de l'expérimentation technologique, des nouvelles techniques d'interaction à distance et de calcul propres à la technologie informatique. Alors, un autre exemple de partenariat art et technologie, c'est, je vous ai dit, IMSS à New York, mais l'intention était complètement différente. Il s'agissait de montrer, au contraire, l'analogie, comme je disais, totale, enfin, de familiariser, de démystifier en quelque sorte les capacités de la machine en montrant en quoi elle était simplement une analogie avec les capacités de calcul et de représentation que pouvait se faire le cerveau humain. Il ne s'agissait pas de transformer en quelque sorte, de penser la machine comme une transformation du corps humain, mais au contraire comme une espèce de réplique, hein, de réplique douce, qui permettait simplement de résoudre de façon plus facile des problèmes finalement auxquels on est confronté quotidiennement. Donc ça c'est la première chose, c'est ce rapport corps-environnement. Hein. Et le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que il ne s'agit pas de montrer la fabrication d'un environnement en tant que tel, mais il s'agit simplement de produire une intensité en quelque sorte de cette interaction, de telle sorte qu'elle constitue un tout, un monde, on pourrait dire. Hein. Un ensemble qui fasse une seule et même chose, un seul élément. Non pas, si vous voulez, quelque chose qui raconterait une histoire, qui pourrait être découpé en une partie, en un certain nombre de séquences qui pourraient être agencées les unes aux autres de façon linéaire, mais plutôt qui font masse, hein, qui constituent une espèce de pelote, hein, comme exactement les diagrammes le montrent, un système auto-régulier, mais aussi un système rétroactif, hein, qui donc va et vient, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ressemble plus à une espèce de boucle continue, hein, et donc qui forme une espèce de sphère, hein, une espèce d'enveloppe, une espèce d'entité compacte. Ça, c'est la deuxième caractéristique, et on retrouve à travers cette caractéristique ce que je disais tout à l'heure, en introduction de l'utopie keynésienne, de produire un, une pratique de systémique globale, une écologie de l'homme, de la culture et de la nature. Quelque chose qui rassemble en quelque sorte à travers un seul et même événement, de façon immersive, le corps et la machine dans une espèce d'environnement reconstitué, dans une espèce de monde reconstitué, une espèce de nouvelle planète, si vous voulez, unifiée, totalisante, sans véritablement morceaux dissociables. Le spectacle n'est ni de la danse, ni du théâtre, ni de musique, ou toute autre chose. Il n'est que de révéler les interactions, le multiple, le simultané, l'accumulé, le quantitatif, qui donne volume à un monde. Le souci du nombre est récurrent dans beaucoup de pièces. Et de ce point de vue-là, je pense que la pièce de Paxton est sans doute la plus révélatrice. Cette espèce de grotte, cette espèce de matrice, cette antre, à mon avis, est d'un point de vue figuratif la plus caractéristique du projet. Voilà, j'avais d'autres peut-être que je vais m'arrêter là. Voilà, c'est cette idée d'un monde révélé comme multidimensionnel. Hein, c'est cette dimension multidimensionnelle révélée à partir de l'objet petit a, qui est le corps humain, qui me semble en jeu dans ces performances. Je serais ravi de répondre à vos questions si vous avez évidemment des questions.
Non, votre projet était complet.
Je pense que bon, il y a assez peu de commentaires hein, pour l'instant. Il y a même très peu de commentaires. Il y a juste un catalogue que vous pouvez trouver dans l'entrée de l'Institut. Qui a été publié l'année dernière, je crois, par l'université américaine, qui n'est pas très bon d'ailleurs, parce qu'il est essentiellement constitué de commentaires de l'époque de gens éminents, comme Lucy Lippard, par exemple, cette critique connue pour ses commentaires sur l'art conceptuel, mais qui à l'époque ne voyait pas forcément toute la dimension en fait, de cet événement. Il y a pour l'instant très peu de commentaires pour le simple fait que ces événements sont, encore une fois, à la fois ancien et récent, puisqu'on ne les revoit que depuis très peu. Et donc c'est vraiment un événement de voir ces 10 films réunis ici, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Et je pense qu'on est qu'au début en fait, de la lecture de ça. Moi, je suis persuadé que c'est sous l'angle, si vous voulez, machinique qu'il faut le regarder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir, habituellement, si vous voulez, quand on a un spectacle, c'est ce qu'on fait tout le temps. Bon, ben voilà, il y a une régie, il y a un certain nombre d'effets spéciaux, il y a tout ce qu'on veut. Mais bon, ben ça, c'est le background, quoi. C'est ce qui est derrière et ce n'est pas forcément ce qu'on retient. Je pense qu'à l'inverse, c'est ce qu'il faut mettre en premier dans ce cas-là. C'est ça, véritablement, le spectacle, entre guillemets. Ce qui fait qu'au bout du compte, ce n'est pas un spectacle. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui nous raconte quoi que ce soit ou qui montre quoi que ce soit. C'est un événement technologique. Analogique, bizarrement. C'est-à-dire que c'est représenté en quelque sorte, c'est la technologie qui se représente elle-même en quelque sorte en tant qu'elle est porteuse d'un futur en quelque sorte. Et ce futur, c'est l'invention de l'ordinateur notamment, hein, c'est-à-dire de cette espèce de connecteur universel qui connecte tout avec tout et qui surtout égalise tout, c'est-à-dire qui fait que toutes les informations, de quel type de nature qu'elle soit, visuelle, sonore, écrite, etc., sont toutes finalement transformées en un même codage, et donc sont possiblement codées et décodées de la même manière. Il y avait ici, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, une exposition d'un artiste que je connais bien qui s'appelle Mehdi Kohanian, qui avait notamment fait une pièce sur, je dis le nom là tout de suite parce que je ne l'ai plus en tête, mais précisément sur cette question du codage universel en fait que permet évidemment maintenant la technologie informatique. On est vraiment à l'origine de ça en 66 et je pense qu'une des choses les plus intéressantes à faire, c'est vraiment de faire une comparaison systématique entre le projet de IMSS en 64, 2 ans avant, qui est aussi un dispositif d'image extraordinaire, qui pose la question du rapport à l'ordinateur, du rapport entre entre, disons, représentation analogique et les caractéristiques de cette machine. Et donc, cette série d'événements, 2 ans plus tard, qui, à mon sens également, ont à voir avec une représentation analogique du fonctionnement de la machine. Ça serait très très intéressant de réfléchir, enfin, c'est ce que j'essaye de faire en fait. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est aussi cette chose, comment le corps le plus prosaïque, hein, le corps de la Johnson Dance, c'est le corps prosaïque, c'est le corps quotidien, c'est le corps qui marche, c'est le corps qui lève des objets, qui se brosse les dents, etc. Comment ce corps complètement, quotidien, banalisé, si vous voulez, du fait de ce qu'il révèle de son rapport à l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas, tout seul, un corps, ça fonctionne dans un contexte, dans un quelque part, et il est constamment en train de produire des effets avec ce quelque part, et bien comment cette situation de base, hein, qui est vraiment le minima du minimalisme, hein, c'est la thèse en quelque sorte de fondatrice de la sculpture minimaliste et de d'une manière générale de toute la réflexion propre à ce courant, est en même temps très proche, hein, ce prosaïque est très très proche de cette réflexion beaucoup plus sophistiquée, parce que les moyens techniques sont plus sophistiqués, que permet la technologie. Si vous voulez, le type d'interface technologique n'est rien d'autre qu'une extension du type d'interface tout court que le corps tout naturellement produit avec son environnement, où qu'il soit. Quoi. C'est juste une extension. C'est pour ça que le terme d'amplification me semble le terme et le concept sans doute le plus approprié pour décrire ce qui est en œuvre. C'est véritablement une sorte d'amplification de choses qui autrement sont pas perceptibles. Et la bonne image de ça, c'est vraiment cette question des ondes électriques qui sont là dans l'air et qu'on ne voit pas, et qui, par ces dispositifs, finalement, sont en quelque sorte révélées et matérialisées, hein, et tout d'un coup deviennent une matière palpable, audible, qui produit du mouvement, etc.
Il y a quelque chose comme ça qui est au Palais de Tokyo en ce moment.
Ah bon? Je ne sais pas.
C'est un groupe d'artistes, mais qui joue sur. C'est des champs magnétiques qu'on traverse, qui nous produisent des.
Il y a plusieurs. L'architecte Philippe Rahm travaille tout à fait dans ce type de, choses. Il y a effectivement tout un courant aujourd'hui, mais voilà des prémices de ça.
Il n'y a aucun témoignage public de Nine Evenings, parce que vous ne saviez pas la durée, par exemple, des performances. On dit qu'il y a 2000 personnes par soir, ouais, donc 20 000 3, en tout, 30 000. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des enquêtes
En tout cas, les films ne relatent pas, la durée des films ne relate pas nécessairement la durée réelle des performances.
Est-ce que, par exemple, dans la constitution de ces archives, aujourd'hui, actuelle, est-ce qu'il y a aussi une enquête, une tentative de retrouver des témoignages?
Je pense qu'on peut savoir. Il y a sans doute une manière de savoir quelle durée exacte a eu lieu. Mais si vous voulez, je trouve ça significatif, même à la limite, que ça ne soit, soit pas la chose sur laquelle on. Enfin, à la limite, qu'on le mette un peu entre parenthèses, parce que, précisément, c'est plus de durée dont il s'agit que de temps. Quoi. Hein, c'est pas un temps calculé, maîtrisable, qui va de temps à temps. Hein, qu'une durée, c'est-à-dire un espace-temps, hein, dans lequel on est immergé. Hein,
formellement, c'est intéressant aussi, si ça constitue une sorte d'archive comme ça préhistorique de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la scène multimédia, oui, performative, ça sera intéressant aussi d'avoir les temps.
Tout à fait. Mais en l'occurrence, par exemple, pour Paxton, le temps est aléatoire, puisque c'est le temps qu'on décide de prendre pour faire cette traversée, pour s'immerger là-dedans, etc. Il y a des temps qui doivent être plus ou moins déterminés, comme par exemple le Lucena Chal, c'est clair que c'est temps qui est plus ou moins déterminé. Et puis il y a des temps qui sont sous la boucle, en fait, qui s'arrêtent pour s'arrêter, parce qu'il faut bien arrêter à un moment. Mais voilà. Mais effectivement, moi je pense que la caractéristique, parce que précisément c'est des systèmes autorégulés, c'est l'espace en fait. C'est-à-dire que c'est moins des temporalités, donc c'est moins des choses qui nous conduisent d'un point à un autre, si vous voulez, de façon vectorisée, de façon verticale, que c'est des espaces d'interaction. Donc, c'est vraiment des boucles, en fait. C'est des sphères. Je veux dire qu'il y a, beaucoup, beaucoup, à mon avis, en tout cas, c'est ce que je fais sur la question des enveloppes. Quoi. C'est une des choses qui m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est de penser. Dans le contexte, ici, il y a une exposition extraordinaire il y a un certain nombre d'années sur l'architecture radicale et sur la pensée d'une architecture sans mur, hein, donc d'une architecture qui fonctionne avec d'autres principes que ceux de la construction, pour en parler. Hein. Eh bien, je peux dire que voilà, ces dispositifs immersifs hein, relèvent, à mon sens, d'enveloppes architecturées, quelque part, immatérielles, hein, qui relèvent qui constituent des véritables, des espaces à vivre, hein, en tout cas ponctuellement, mais qui n'ont pas besoin pour ça d'être, en quelque sorte, constitué de parois, de choses comme ça. L'intensification, par exemple, à un moment donné, j'essaie de dire que dans la pièce de Déborah, par exemple, le son fonctionne comme un intensificateur, comme la lumière d'ailleurs. Hein. Vous avez un grand spot de lumière très intense sur un endroit donné. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'autre chose pour créer la présence. Même chose avec le son. Je veux dire, le son, s'il est très très amplifié à un endroit donné, si vous voulez, il crée une espèce de pesanteur, si vous voulez, sur le moment, quoi, sur l'espace dont il s'agit. Il y a d'autres manières de créer, du dedans, hein, que de construire des parallépipèdes qui encadrent.
D'ailleurs, à la dernière Biennale de Venise, il y a une artiste chinoise qui présentait une structure assez équivalente à celle de Paxton. Je ne pense pas qu'elle en avait connaissance, parce qu'en 2007, elle a créé une sorte d'utérus, de ventre, de paroi comme ça, et à l'intérieur, c'était toute une pratique de Second Life. Donc il y a une extension en plus vers l'architecture virtuelle, qui reprenait étrangement dans une figure ultra contemporaine quelque chose qu'on a là 50 ans.
Mais vraiment sur cette question des enveloppes gonflables et tout ça, il y aurait tout un. Je veux dire, en France par exemple, exactement dans les mêmes années, donc il y a le groupe Espace dont Hans Walter Müller est un des fondateurs, qui réalise vraiment de l'architecture tout à fait comparable, qui vit aujourd'hui d'ailleurs dans une maison à la Ferté-Bernard qui est constituée de cette façon-là, qui est une architecture pulsée, donc une architecture d'air, dans une enveloppe de polyuréthane comme ça, gonflée, et qui fonctionne d'ailleurs presque systématiquement avec des projections de diapositives, enfin avec un environnement intérieur constitué par l'immatérialité de l'image. Mais il y aurait plein d'exemples. J'ai cité Kissler parce que c'est un exemple évident, en tout cas pour l'Amérique, parce que The Endless House a été un projet extrêmement influent aux États-Unis, et Kissler de manière générale a une influence très importante à New York à ce moment-là, mais il y aurait beaucoup d'exemples. Vous avez eu récemment une très belle exposition du FRAC Centre qui s'appelle Architecture Sculpture, qui montre toutes ces. Une déclinaison assez importante de projets d'architecture qui se pensent comme des antres, des grottes, des choses comme ça. Ouais. Bon, alors, elles ne sont pas nécessairement gonflables, elles ne sont pas nécessairement faites de structures plastiques, comme ça, mais disons que c'est la métaphore que ça induit, c'est-à-dire cette idée d'enveloppe, à mon sens, est très très importante. C'est-à-dire cette idée de dedans, d'être inclus, hein, d'être vous avez aujourd'hui, par exemple, un philosophe extrêmement intéressant, un philosophe allemand qui s'appelle Sloterdijk, hein, qui a écrit ces trois tomes sur les sphères. Hein, l'histoire des sphères, c'est tout à fait dans, à mon sens, dans la question du ventre, évidemment, enfin tout ça. Donc il y a, on peut faire fonctionner l'imaginaire. Architecture sculpture, les scattered pieces, ces pierres de Pierre André qui sont situées. Vous avez un très beau catalogue qui avait été publié. Non, c'est pas les. Les calendriers au Disfrantin, il me semble, où il y a une documentation particulière de ces pièces qui sont des, en fait, des éléments de briques qui sont au départ en parallélépipède et qui sont dispersés dans l'espace. Ça donne une espèce d'impression de, voilà, de, comme une espèce d'explosion, en fait.